posture. Moi, qu'un chat perdu fait pleurer, pensez si j'eus le cœur serré devant l'embarras du fantôme. Venez, dis-je, en prenant sa main, que je vous montre le chemin, que je vous reconduise à home. L'histoire finirait ici, mais la brise, et je l'en remercie, troussa le drap de ma cavalière. Dame, il manquait quelques osselets, mais le reste, loin d'être laid, était d'une grâce singulière. Mon Cupidon, qui avait la flèche facile en ce temps, la vie mouche et le feu sur les tempes. Je conviais sournoisement la belle à venir un moment, voir mes icônes, mes estampes. Mon cher Luther, vous êtes fou, j'ai 2000 ans de plus que vous. Le temps, madame, que nous importe? Mettant le fantôme sous mon bras, bien enveloppé dans son drap, vers mes pénates, je l'emporte. Eh bien, messieurs, qu'on se le dise, ces belles dames de jadis sont de satanées polissonnes, plus expertes dans le déduit que certaines dames d'aujourd'hui, et je ne veux nommer personne. Au petit jour, on m'a réveillé, on secouait mon oreiller avec une fougue pleine de promesses. Mais foin des délices de capou, c'était mon père criant debout, vain Dieu, tu vas manquer la messe. Mais foin des délices de capou, c'était mon père criant debout, vain Dieu, tu vas manquer la messe.
J'aimerais tant que tu te souviennes de cette chanson de fin d'automne. Parfois la vie vous fait des siennes et les regrets micro-sillonnent. Elle reprenait, je me souviens, des vers de Prévert, et à moins que ma mémoire me joue des tours, c'était une chanson de Gainsbourg. Il y a 500 000 gitanes qu'elle sonne, le glas des feuilles que le vent sème. Combien de glaçons qu'on la fredonne, combien de vers qu'elle réquiem. Quand je l'entends, il me revient le goût de tes larmes, et à moins que ma mémoire me joue des tours, c'était une chanson de Gainsbourg.
À la peine.
quand je l'entends, il me revient le goût de tes larmes. Et à moins que ma mémoire me joue des tours, c'était une chanson de Gainsbourg.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. C'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Pour soutenir à la radio, vous pouvez aller sur le site radio-libertaire.net, je crois, ou org. Et là, vous pouvez donc adhérer en remplissant, en renseignant le bulletin de souscription. Et donc, vous pouvez verser une certaine somme de votre choix selon vos moyens. Et pour nous soutenir, donc, il y a aussi la carte d'auditeur qu'on peut trouver à la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro République, Oberkampf ou Fille du Calvaire. Alors, au sommaire d'aujourd'hui, on va donc faire un petit tour encore dans la presse avec une enquête du journal du dimanche sur l'isolement et la contention des parents des patients pardon l'isolement et la contention des patients. C'est tiré du bulletin d'information numéro 43, publié par le CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie. Et puis, ensuite, nous verrons à travers deux petites brèves sur des maladies mentales, c'est-à-dire des syndromes ou des symptômes ou des troubles qui sont évoqués et qui sont qui font l'objet de d'une critique dans le livre est déjà ancien dont je vais vous lire un extrait ensuite, 2012, L'imposture de la maladie mentale, critique du discours psychiatrique de Alain Bachand, qui est philosophe, et qui a travaillé comme fonctionnaire, ou qui travaille encore comme fonctionnaire au palais de justice de Montréal. Voilà. Donc ces maladies sont-elles objectives? Voilà un peu le thème de l'essentiel de cette émission d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, donc, enquête, le journal du dimanche, dimanche 14 mai 2023, psychiatrie, la grande maltraitance. Dérive, privation. Dérive, la contention et l'isolement, en principe limités aux situations de dernier recours, sont de nouveau couramment utilisés dans les services spécialisés en France. Privation, principale cause du retour de ces pratiques souvent illégales, le manque de personnel soignant, le déficit de formation et les moyens insuffisants des établissements. Donc voici, c'était le chapeau de cet article, article de Laure Marchand. Ce sont des cris et des peurs qui ne parviennent pas au monde extérieur. Ils se heurtent au mur des hôpitaux psychiatriques. Être attaché, si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. De la torture abominable, explique Éric G., 46 ans, qui a été placé à l'isolement et sous contention dans des établissements psychiatriques de la région parisienne de si nombreuses fois qu'il ne parvient pas à en faire le décompte. Une torture physique, car bouger est impossible alors qu'il s'agit d'un besoin naturel, doublé d'une torture psychologique. La panique de mourir, prise dans un corps rigide comme un clou de cercueil à cause des neuroleptiques. Judith, 29 ans, qui avait été hospitalisée à sa demande à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, raconte la même terreur. Après une tentative de suicide, elle a été transférée dans une unité de soins sans consentement. Elle raconte: « Je me souviens qu'ils m'ont traîné dans les couloirs en pleine nuit, balancé dans une chambre, sans un mot, attaché, et je suis resté seul, un néon en pleine gueule. Sur un lit en métal, sans matelas, je gelais de froid. Je n'avais même pas un drap, juste mes chaussettes. J'avais supplié qu'ils me les laissent. Quand je les entendais passer, je hurlais que je voulais juste parler à quelqu'un. Ils ne sont jamais entrés. Je ne sais pas combien d'heures cela a duré. Assez longtemps pour que je me pisse dessus. » Fin du témoignage. Difficile, sans être passé par là, de comprendre les effets de la contention mécanique en chambre d'isolement. Concrètement, c'est un dispositif d'immobilisation avec des sangles aux chevilles et aux poignets, une ceinture abdominale et un harnais. Magnétique ou manuel, il peut être partiel ou total. L'isolement consiste à maintenir une personne contre son gré dans une pièce fermée. En France, ces pratiques ne doivent être utilisées qu'en dernier recours, entre guillemets, selon la loi, et ne sont censées concerner que les patients hospitalisés sans leur consentement. Elles sont pourtant courantes dans les établissements de santé mentale, parfois en toute illégalité, le plus souvent dans l'indifférence générale. Si la société a fini par ouvrir les yeux sur la maltraitance dans les maisons de retraite, elle continue de se détourner de celle qui a lieu dans les hôpitaux psychiatriques. Le « fou », entre guillemets, fait peur, évoquant l'image du forcené dangereux sous camisole. Pourtant, un Français sur cinq souffre de problèmes de santé mentale. Ah, tiens, on avait déjà lu ça quelque part. En 2021, près de 400 000 d'entre eux ont été hospitalisés, selon l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, ATIH. Cette année-là, parmi les 78 000 personnes internées sans leur consentement, plus de 30 000 ont été mises à l'isolement et 1/10 a été attachée, a chiffré l'IRDES, Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Combien de ces cas sont-ils injustifiés? Ces données montrent en tout cas une ampleur bien loin du dernier recours exigé par la loi. De plus, une partie passe sous les radars. Les registres des établissements qui doivent obligatoirement être renseignés ne se sont pas toujours tenus à jour. Également inquiétant, le contrôleur général des lieux de privation note dans son dernier rapport d'activité une augmentation de la proportion de patients isolés et placés sous contention sur l'ensemble des patients hospitalisés. À la tête de cette autorité administrative indépendante, Dominique Simoneau dénonce un état de la psychiatrie publique apocalyptique, ce qui retombe forcément sur les patients. On ne peut pas faire abstraction du manque de soignants, 30% dans certains services, précise-t-elle. Il y a un désintérêt général et un calcul sans vision de l'État pour la psychiatrie. Tout le monde s'en fiche. C'est une grave erreur. À terme, cela va nous coûter très cher. Fin de citation de Dominique Simoneau. En sous-effectif, les psychiatres et le personnel soignant sont débordés. Mais il n'en reste pas moins que certains établissements recourent largement à ces mesures alors que d'autres s'y refusent, ajoute-t-elle. Les disparités sont immenses. Dans les Yvelines, à l'hôpital de la Verrière, par exemple, 65% des patients sont passés par la chambre d'isolement en 2021. À l'autre bout du spectre, 15% des hôpitaux de France n'attachent pas les malades. L'addition des pénuries. La contention et l'isolement n'ont pas toujours été si fréquents. Entre la fin des années 1970 et des années 1990, ces pratiques avaient peu à peu déserté la psychiatrie. En 1985, quand Patrick Estrade, infirmier psychiatrique, a démarré sa carrière à l'hôpital Philippe Pinel, près de Toulouse, elles étaient tout bonnement inexistantes. La dignité du patient et la liberté de circulation et de parole étaient intangibles. Nous faisions beaucoup d'analyses de situations pour comprendre un passage à l'acte. Souvent, on s'apercevait qu'il y avait un motif de mécontentement. Voilà, c'est donc la citation de Patrick Estrade. Une crise ne tombait pas du ciel et, en prenant le temps, le désamorçage était souvent possible. Et puis, il y a une quinzaine d'années, une première chambre d'isolement a fait son apparition, se souvient-il. La contention a suivi. Vers 2015, il y a eu une explosion. Une tendance à rebours des recommandations européennes. Lorsque ces pratiques sont illégales ou abusives, la Cour européenne des droits de l'homme les assimile à de la torture et à des traitements inhumains ou dégradants. Selon le Comité européen pour la prévention de la torture, la contention ne peut être appliquée qu'à des cas exceptionnels. En Islande, elle est interdite. Elle est interdite. Cela s'est fait au fur et à mesure, confirme Mathieu Bellassène, psychiatre. La pénurie s'est infiltrée dans les moindres espaces. Dans le moindre espace, les dispositifs de contrainte ont été créés. Selon ce pourfendeur de la contention, le manque de moyens n'explique pas cependant pas tout. Le niveau de tolérance des soignants a diminué. S'identifie-t-on au patient? Toute la question est là. Pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale entre lui et moi. Il pourrait m'arriver la même chose. Fin de citation. Pour ne rien arranger, cette détérioration progressive s'est doublée de la disparition du diplôme d'infirmier en secteur psychiatrique en 1992. Peu à peu, les derniers s'en vont, à l'instar de Patrick Estrade, à la retraite à la fin du mois, emportant avec eux une certaine vision du métier et des compétences. L'addition des pénuries de moyens, de personnel et du déficit de formation peut conduire à des dérives gravissimes. Ainsi, à La Roche-sur-Yon, en Vendée, les contrôleurs du CGLPL, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, ont été horrifiés par ce qu'ils ont découvert l'année dernière. Des adultes en soins libres isolés, ce qui est interdit, de même que des mineurs, interdits également, des patients en contention sans accès à un bouton d'appel, des psychiatres qui ne se déplacent pas systématiquement pour valider ou lever les mesures. En 2021, un homme immobilisé a été retrouvé mort. Son décès remontait à 4 jours. La contention comporte des risques veineux et respiratoires importants. Sylvie Lehureau, 67 ans, était bipolaire. Le 19 octobre 2018, cette auxiliaire de puériculture à la retraite est transférée dans l'unité psychiatrique protégée de l'hôpital d'Ayange, en Moselle. Son diagnostic vital n'est alors pas du tout engagé. « Mais c'est la dernière fois qu'on a vu maman vivante », se souvient Géraud, son fils. Elle est placée à l'isolement. Son état somatique se détériore de jour en jour, sa famille demande son transfert aux urgences. L'équipe médicale refuse. Le 31 octobre, en dépit d'un bilan sanguin extrêmement inquiétant, ils n'ont rien trouvé de mieux que de la remettre à l'isolement, se désole son fils. À 17h30, Sylvie Lehureau est retrouvée en état de confusion sur les toilettes, selon le rapport de l'infirmière qui précise que, après avoir été douchée, la patiente présente un faciès livide sans réaction. le SAMU n'est pas parvenu à la réanimer. Dans son rapport rendu en 2022, l'expert médical conclut à des manquements multiples. Une hospitalisation dans un service dédié s'imposait impérativement et sans délai, affirme-t-il. La famille a déposé plainte pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Contrôle par un juge. Sans aller jusqu'à ces drames, de nombreux soignants dénoncent une banalisation des mauvaises pratiques. Au Havre, au centre hospitalier Pierre Janet, Christophe, infirmier depuis 20 ans, ressent l'évolution. On enferme plus facilement. Avant, c'était vraiment l'ultime recours pour attendre les effets de la camisole chimique. On témoignait alors de notre présence chaque heure pour rassurer. J'ai l'impression qu'il s'agit désormais de gagner du temps. Ça choque moins. Après avoir travaillé pendant 12 ans à l'hôpital psychiatrique de Meaux, François a fini de partir écœuré en 2021. Au fil des ans, cet aide-soignant a vu les activités disparaître, faute de budget. Ne restait qu'une télé allumée en boucle. À la fin, j'organisais un atelier coupage d'ongles, raconte-t-il dépité. Ce qu'il parvenait encore moins à supporter était le comportement d'une partie de ses collègues. Quand les patients la ramenaient trop, criaient trop, se plaignaient trop, hop, c'était la menace, et s'ils ne se calmaient pas, l'isolement. Surtout lorsque le psychiatre avait quitté le service après 16 heures. François relate également le recours à la punition des sangles trop serrées aux chevilles et aux poignets. Il a fallu la persévérance du Conseil constitutionnel pour que le sort des malades psychiatriques soumis à la contention et à l'isolement soit mieux encadré. Après 3 censures des sages, révélatrices du peu d'intérêt du législateur pour cette question tant les textes étaient insuffisants, la loi du 22 janvier 2022 a enfin rendu obligatoire le contrôle de ces mesures par un juge des libertés et de la détention. Au bout de 72 heures d'isolement et de 48 heures de contention, le magistrat doit statuer sur leur bien fondé dans un délai de 24 heures. Raphaël Maillet, l'avocat de la famille de Sylvie Le Hureau, s'en félicite. L'isolement et la contention sont extrêmement attentatoires aux libertés fondamentales. Le fait d'être privé de liberté en raison de troubles psychiques ne doit en rien enlever leurs droits à ces patients, bien au contraire. Au mois d'avril, une question prioritaire de constitutionnalité visant à rendre la présence d'un avocat obligatoire au moment où le juge se prononce a été transmise à la Cour de cassation. Un avocat est d'autant plus indispensable que ces personnes ne sont généralement pas en mesure de se défendre elles-mêmes, estime Raphaël Maillet. Elles sont dans un état de vulnérabilité extrême, souvent sous un traitement médicamenteux empêchant un raisonnement libre. Fin de citation. Pour l'instant, l'avocat est facultatif. Il est censé être proposé aux patients par l'établissement. Ce qui, dans les faits, donne des politiques extrêmement diverses. Au tribunal de Bobigny, chaque patient a un avocat. À Versailles, 1/2 en moyenne. À Paris, dont dépend Sainte-Anne, aucun ou presque. Nous avons pourtant monté une permanence de 150 avocats ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, s'offusque Corinne Vaillant, cette avocate parisienne qui lutte pour améliorer le droit des malades psychiatriques depuis 4 décennies, n'a jamais été saisie pour un contrôle de contention ou d'isolement à Sainte-Anne. Des services exemplaires. En vigueur depuis un peu plus d'un an, la loi de 2022 n'est pas encore entrée dans les mœurs. Quand la mère d'Iliès m'a sollicité le 10 novembre dernier, je n'arrivais pas à croire ce qu'elle me racontait. Je ne pensais pas que la loi pouvait être violée à ce point. Se souvient l'avocat Benoît Luneau. Âgé de 24 ans, Iliès était hospitalisé depuis le 22 septembre à l'hôpital Louis Mourier à Colombes. Toute visite était interdite au motif qu'il était à l'isolement. L'avocat décide d'aller vérifier sur place, téléphone, essuie un refus, insiste et annonce sa venue. Dans la chambre, il découvre son client hagard, attaché sur son lit. L'odeur est épouvantable et il y a des flaques d'urine de chaque côté du lit, décrit-il. Je fais donc venir une aide-soignante qui me dit « Ah oui, ce n'est pas normal, on peut glisser et après ça fait un arrêt de travail. » J'ai répondu « C'est aussi un peu attentatoire à la dignité de mon patient. » Saisi, le juge ordonne la levée immédiate des mesures. Sur 72 jours d'hospitalisation sous contrainte, Iliès sera resté 51 jours à l'isolement, dont 27 et demi attachés. Nous avons découvert des durées de contention d'affilée inimaginables, une de 138 heures et une de 156 heures, ajoute-t-il. Iliès est traumatisé. Fin de citation. Cinq mois après cette expérience, le jeune homme peine à en parler, mais il veut témoigner. Pas d'accompagnement aux toilettes, les excréments sous lui, les couches. C'était une séquestration, je n'ai pas d'autre mot. Et encore, j'ai de la chance par rapport à d'autres qui sont seuls. Ma famille et mon avocat ont tout fait pour me sortir de là. Sans eux, est-ce que j'y serais encore ? On est des humains quand même, pas des cobayes. Pourtant, en France, certains services psychiatriques sont exemplaires. À l'image de celui de l'hôpital François Rabelais à Chinon, lumineux, paisible, ouvert sur de petits jardins. Les patients sont les bienvenus dans le bureau des infirmiers, ont le droit d'aller et venir à la cafétéria. Les portes, sauf exception, ne sont pas fermées. La contention n'est jamais utilisée. Nous avons bien des sangles, mais je ne sais même pas où elles sont rangées, déclare une infirmière. La chambre d'isolement est vide la plupart du temps. Seuls 1,5% des patients y sont placés. Mais c'est vraiment lorsqu'on n'a pas réussi à juguler la crise et qu'on a tout essayé avant, précise un autre. La recette ? Des soignants très investis auprès des patients, c'est à nous de nous adapter à eux, pas l'inverse. Si la tension monte, ils cherchent le truc qui pourrait marcher. Une présence, une discussion, un traitement, une balade dans la forêt environnante, une cigarette, de la musique. Une main rassurante sur une épaule suffit parfois à canaliser des angoisses. Quand une crise survient, nous pouvons détacher un soignant, voire deux, le temps nécessaire, car nous sommes en effectif suffisant, explique l'un d'eux. Enfin presque, un des infirmiers de jour est désormais également affecté de nuit. Les collègues ne sont plus assez nombreux pour organiser régulièrement les ateliers cuisine, jeux de société, les sorties randonnées, la chorale. Ces activités sont pourtant essentielles pour créer une alliance thérapeutique. Plus que tout, des soignants s'inquiètent de l'épée de Damoclès sur la prise en charge. Lourdement endetté, l'hôpital a signé un plan de restructuration avec l'Agence régionale de santé ARS. Dans ce cadre, il est prévu de supprimer un quart des postes d'infirmiers en psychiatrie qui ne seraient remplacés qu'en partie par des aides-soignants. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a alerté Olivier Véran, alors ministre de la Santé, pour tenter de préserver une prise en charge particulièrement respectueuse et recommander de faire de ce service une référence en matière de bonnes pratiques en France. Dans sa réponse, le ministre a validé le projet de l'ARS. Un tel changement serait catastrophique pour la qualité des soins, s'alarment des infirmiers. Infirmiers et aides-soignants ne font pas le même métier, et à la fin de l'été, un des quatre psychiatres s'en va. Aucun remplaçant n'a pour l'instant été trouvé. Voilà, c'était un article, donc, comme je le disais, du journal du dimanche, du dimanche 14 mai, 2023, psychiatrie, la grande maltraitance. Vous êtes toujours à l'écoute de l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie et émission qui critique la psychiatrie dans le sens où c'est une. En tant qu'institution, et nous sommes abolitionnistes. Nous sommes pour la disparition de la psychiatrie et du monde qui va avec, c'est-à-dire, de ce monde où la compétition prime et la performance et la vitesse et l'argent, etc. Et bien sûr aussi la coercition du pouvoir. La coercition d'État, etc. Alors, je vais passer à une... une petite pause musicale quand même. Tick 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 t toujours Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Alors, deux petites brèves, une de 6 juin 2023, j'ai oublié de noter le... ça doit être Science et Vie ou quelque chose comme ça. Le syndrome de Diogène au-delà des faits divers. Accumuler des objets de manière compulsive est seulement un des symptômes d'un trouble qu'il convient d'aborder comme tel. Certaines personnes font les poubelles, ce sont des glaneurs que tu croises avec leur caddie rempli d'objets sans valeur qu'ils ramènent chez eux, indique Laurence Huguenot-Diner, psychogériatre et spécialiste du syndrome de Diogène. Les représentations médiatiques du syndrome de Diogène en donnent une vision biaisée et sensationnaliste. Le docteur Mathieu Piccoli, gériatre qui co-signe le syndrome de Diogène, Comprendre et soigner avec Laurence Huguenot-Diner, sait bien le rejet et la stigmatisation qui accompagnent ce trouble comportemental, amenant certaines personnes à accumuler, entasser objets, vêtements et détritus au-delà même des capacités de leur habitat. Il sait aussi combien ce prisme qui conduit à n'envisager que la partie émergée de l'iceberg des symptômes participe à l'incompréhension ainsi qu'au déni du droit à la santé des personnes touchées. Une porcherie atteinte du syndrome de Diogène, la locataire laisse à son propriétaire un appartement souillé en Haute-Garonne en juillet 2022. La maison de l'horreur, 15 tonnes de déchets accumulés par une personne atteinte du syndrome de Diogène. Dans le Tarn et Garonne en mai 2023. À Brest, un syndrome de Diogène a vidé de ses locataires un immeuble de recouvrance. Il y a également quelques semaines, les titres de la presse sont éloquents et illustrent parfaitement les dires du gériatre. Donc on est quand même en plein fait divers, hein, on ne dépasse pas tellement le fait divers. La parole est donnée aux proches et aux voisins considérés comme des victimes. La personne touchée par le syndrome n'existe plus, seule compte les dégâts qu'elle a pu occasionner. Et fauteuse de troubles, elle est niée dans les souffrances qui ont pu la conduire à s'abandonner à l'accumulation. Une grande fragilité psychologique. Pour le reste, que savons-nous vraiment de ce syndrome de Diogène ? Souvent pas grand-chose, d'où l'importance de donner la parole aux professionnels qui travaillent au quotidien avec des personnes concernées. Pourquoi pas directement à ces dernières ? Il y a souvent soit une anosognosie, absence de prise de conscience ou une prise de conscience amoindrie des troubles, alors prise de conscience médicale, hein. Soit une honte dissimulée qui font qu'il est souvent impossible, sinon dangereux, de faire témoigner les personnes. Une de mes patientes m'a confié qu'elle risquerait de se suicider si elle parlait à un journaliste, rapporte la docteure Laurence Huguenot-Diener, psychogériatre et spécialiste du syndrome de Diogène. Pas de gaslighting ici, c'est en conscience et sans volonté d'invisibilisation que nous n'avons pas sollicité de patients. Des patients qui, contrairement à ce que l'on croit habituellement, ne sont pas tous des seniors. Le syndrome de Diogène, qui toucherait 1,6 personnes sur 10 000, concerne en effet généralement des personnes plus jeunes. Une étude de mars 2000 révélait ainsi que 51% des personnes concernées par ce syndrome ont plus de 65 ans, mais que 37% ont entre 45 et 64 ans et 13% entre 18 et 44 ans. Un rapport différent aux objets, etc. Alors, négligence de l'hygiène et isolement social. Quelles peuvent en être les causes ? Pour Laurence Huguenot-Diener, le symptôme de stress post-traumatique en serait essentiellement le lit. Mes patients sont souvent des enfants de la Shoah qui ont dû se cacher pour ne pas être déportés alors que leurs parents l'étaient, explique la psychogériatre. Certaines personnes ont vécu des guerres, d'autres des attentats. Je pense par exemple aux personnes qui étaient au Bataclan le 13 novembre 2015. 20% d'entre elles auraient développé un syndrome de Diogène. L'enfance est souvent remémorée comme une sorte de paradis perdu avant que ne survienne un traumatisme. Traumatisme qui revient lorsque là où les personnes ressources décèdent, complète Mathieu Piccoli. Pour les personnes atteintes, le repli sur soi revient à se mettre dans une forme de cocon pour ne plus souffrir. Mais la forteresse physique et symbolique qu'elle se construise peut devenir aussi un véritable fardeau et engendrer de nouvelles souffrances, notamment lorsque les personnes se retrouvent contraintes de vider ou de quitter leur logement. Et d'autres causes, d'autres pathologie pourrait être responsable du syndrome de Diogène, etc. Bon, je ne vais pas finir l'article. Je passe à un deuxième qui s'intitule « Pourquoi le trouble bipolaire est si difficile à diagnostiquer chez les ados ?» Alors, caractérisé par une alternance d'épisodes dépressifs et hypomaniaques, il toucherait près de 2,5% de la population. Alors là, il s'agit donc du trouble bipolaire. Les difficultés et retards de diagnostic pèsent sur la santé et la vie sociale, affective, familiale et scolaire de ces jeunes. Bon, c'est donc ce que dit l'article. Selon une enquête réalisée par l'association Bipolarité France et publiée ce 30 mars 2023 à l'occasion de la Journée mondiale des troubles bipolaires, les premiers symptômes du trouble apparaissent à plus de 50% avant l'âge de 20 ans. Pourtant, seuls 7% des jeunes vivant avec un trouble bipolaire sont diagnostiqués avant l'âge de 20 ans. Alors, il parle de difficultés et retards de diagnostic. Et qui serait pesante sur la santé et la vie sociale, affective et familiale, scolaire de ces jeunes. C'est-à-dire que la santé et la vie sociale, familiale, scolaire de ces jeunes serait donc mise à mal à cause de l'absence de diagnostic. L'enquête réalisée par Bipolarité France pointe que les longs délais de diagnostic ont... Bon, voilà, donc on ne diagnostique pas assez vite, ni assez tôt. Des retards de diagnostic. Après, il y a un chapitre sur les bénéfices du diagnostic. Poser le diagnostic, c'est pouvoir mettre en place une prise en charge adéquate qui combine généralement médicaments spécifiques et accompagnement psychothérapeutique, incluant une part d'éducation thérapeutique. Celle-ci permet à la personne de mieux appréhender et comprendre ses troubles et de mieux prévenir et gérer les différents épisodes. Cette psychoéducation permet également de donner aux proches des outils pour éviter d'avoir des attitudes contre-productives. Alors là, voilà, c'est un peu en quelque sorte la personne diagnostiquée suit une formation pour devenir une vraie malade, en fait. C'est ce que on pourrait donc on pourrait l'interpréter ainsi. Donc obtenir un diagnostic, c'est, comme le signale Juan Zambrano, psychologue clinicien et chercheur, un soulagement qui permet aux jeunes de se sentir moins seuls et d'échanger avec des pairs qui vivent la même chose que lui. Donc, ce ne serait pas seulement de simples tourments adolescents, les troubles bipolaires, mais c'est... Donc, parce qu'il pourrait être confondu avec les mouvements d'humeur qui sont le fait même de l'adolescence. Tristesse, fatigue, manque de confiance en soi, irritabilité, agitation, comportement à risque comme pour tester ses limites et celles de ses parents sont autant de symptômes des troubles bipolaires qui peuvent être pris par l'entourage pour de simples tourments adolescents, sinon pour d'autres troubles comme le TDAH, le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et bien sûr, là, on entre vraiment dans la théorie de la définition de la maladie. Comme l'explique Juan Zambrano, ou Juan Zambrano, ce qui caractérise les troubles bipolaires, c'est l'alternance bien marquée d'épisodes up, maniaque ou hypomaniaque, et down, dépressif, qui peuvent durer d'une semaine à deux mois ou davantage. C'est vraiment comme si on appuyait sur un interrupteur avec des changements de rythme subis et très nets, note le psychologue. Alors là, j'arrête la lecture de cet article. On arrive à pratiquement l'essentiel, à savoir, on a une sorte de réification médicale de... personnes et de comportements qui sont que rencontrent des personnes qui ont des problèmes. Ouais, effectivement, peut-être qu'ils ont des problèmes, mais qui ont des problèmes avant tout sociaux. C'est pourquoi je voulais vous faire partager un chapitre ou l'extrait d'un chapitre du livre L'imposture de la maladie mentale de Alain Bachand, critique du discours psychiatrique, philosophe. Alain Bachand, philosophe. Au sujet de l'inconstance du diagnostic psychiatrique. Lors de procès criminels, il n'est pas rare de voir des psychiatres établir des diagnostics différents sur l'état d'un accusé. Prenons le cas de John Hinckley, qui avait tenté d'assassiner le président Ronald Reagan en 1981. Il a été acquitté pour raison de désordre mental. Il était à l'époque amoureux de l'actrice Jodie Foster, qu'il cherchait à séduire, en vain, en lui envoyant des lettres d'amour. Il avait alors projeté d'assassiner Ronald Reagan pour l'impressionner. Selon les psychiatres de la poursuite, son état mental était une forme de trouble de la personnalité. Selon les psychiatres de la défense, c'était plutôt une forme de schizophrénie. Les cas de divergence entre le diagnostic entre psychiatres sont nombreux. Des psychiatres expérimentés, témoins de la même interview psychiatrique avec un patient, n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur son diagnostic. Des psychiatres de trois régions différentes ont dressé un diagnostic différent après avoir visionné le film d'une interview avec un patient. Lors d'une étude menée en Suède en 1996, 188 psychiatres devaient se prononcer sur trois histoires de cas qui leur étaient présentées, dont l'une pouvait d'ailleurs ne pas relever d'un désordre mental. 65% avaient suggéré des diagnostics variés allant de la psychose maniaco-dépressive au trouble de la personnalité. La description d'un patient à 134 psychiatres américains et à 194 psychiatres britanniques a donné lieu à un diagnostic de schizophrénie chez 69% des premiers contre 2% des seconds. Cela dit, dans les années 1980, les psychiatres américains avaient une notion de la schizophrénie plus largement définie que celle des psychiatres européens. Le diagnostic de la maladie était ainsi plus fréquent à cette époque aux États-Unis. Alors, on a des notes, hein, c'est donc toutes ces expériences qui ont été faites sont scientifiques. Hein, Dave Faust et J. Ziskin, The Expert Witness in Psychology and Psychiatry, Stuart et Cutchins, The Selling of DSM, Garb Studying the Clinician, et G. Reed, Docs Schizophrenia, Does Schizophrenia Exist? Et R. Warner, Recovery from Schizophrenia. Les critères de la schizophrénie ont depuis été resserré et il y a maintenant moins de schizophrènes au pays, aux États-Unis. Les psychiatres ne sont par ailleurs pas toujours d'accord sur la notion de délire bizarre. On a demandé à 50 psychiatres d'évaluer la description de 30 cas censés illustrer des croyances délirantes. Ces cas ont été évalués à 47% comme des délires bizarres, à 39% comme des délires non bizarres, à 12% comme des idées anormales mais non délirantes. 2% n'ont pas été évalués faute d'informations suffisantes. C'est selon l'expérience de Mojtabai et R.A. Nicholson, Interpreter Reliability of Ratings of Delusions and Bizarre Delusions. Donc, ça montre aussi peut-être que 2% des psychiatres seulement, ça veut dire qu'ils ne savent pas. Ça, c'est mon interprétation. Hein, mais je continue. Le délire bizarre constitue en lui-même une schizophrénie et, compte tenu de ses pourcentages, c'est moins de la moitié de ces psychiatres qui auraient été d'accord avec un tel diagnostic. Des patients diagnostiqués obsessifs compulsifs ont gardé le même diagnostic au cours d'une même année dans 19% des cas. Des patients diagnostiqués schizophrènes sont restés dans la même catégorie 6 mois dans un pourcentage allant de 62% à 89%. Note Nathan et Langenbucher. Le changement proviendrait ici de l'évolution naturelle de la maladie, 43% des cas, et de l'inexactitude diagnostique, 57%. Alors, l'article commence avec beaucoup de chiffres, hein, comme ça, d'expériences qui ont été réalisées pour démontrer, enfin, pour qui montrent, plus exactement, le flou des diagnostics. Je continue. Les patients psychiatriques font souvent l'objet de diagnostics discordants. Mais ces derniers peuvent également se recouper au point de mettre en doute leur spécificité. Car les patients psychiatriques ont des symptômes communs comme la démoralisation, l'anxiété, la tristesse et le désespoir. Les délires peuvent conduire à des actes antisociaux. La personnalité narcissique peut être confondue avec la psychopathie. De même, la personnalité histrionique ou hystérique peut être confondue avec la personnalité antisociale. Et cela mérite d'être illustré. Garbe raconte ainsi que, sauf en ce qui concernait le sexe des sujets, des histoires de cas identiques ont été présentées à différents groupes de cliniciens. Or, ces derniers ont été portés à diagnostiquer hystérique le sujet féminin et psychopathe le sujet masculin. Garb Studying the Clinician. Autres exemples, le retrait social est présent autant dans la schizophrénie que dans la dépression. Le dépressif est sujet à l'anxiété et l'anxieux à la dépression. Le délire de grandeur peut survenir aussi bien dans la schizophrénie que dans la maniaco-dépression. Et il y aurait presque 30% de chances qu'un diagnostic de dépression majeure soit appliqué à une personne diagnostiquée schizophrène, et inversement. Le flou inhérent aux problèmes psychiatriques donne lieu, comme on le voit, à d'importantes corrélations entre diagnostics, si bien que la combinaison entre symptômes reste relativement subjective, selon J. Mirowski, The Subjective Boundaries and Combinations in Psychiatric Diagnosis. On a tenté avec le temps d'uniformiser les diagnostics et d'améliorer ainsi la communication entre cliniciens. En fait, les diagnostics psychiatriques sont susceptibles de s'appliquer dans les grandes lignes avec une certaine uniformité. Une personne manifestement démoralisée sera un dépressif et non un schizophrène. Une personne manifestement attirée sexuellement par les mineurs sera un pédophile et non un psychopathe. Une personne manifestement bizarre qui entend des voix sera un schizophrène et non exhibitionniste. Mais au-delà de ces généralités, il tend à y avoir des recoupements de l'ambiguïté et de la confusion. Les psychiatres doivent classifier les soi-disant pathologies mentales dans des catégories distinctes. Plus ils rangent les mêmes cas dans les mêmes catégories psychiatriques, plus le système sera jugé fiable. La fiabilité diagnostique consiste en ce que les psychiatres appliquent à un diagnostic similaire à des cas similaires. On a tenté d'améliorer la fiabilité des classifications psychiatriques en utilisant par exemple une terminologie plus explicite, de façon qu'on puisse s'entendre plus facilement sur le diagnostic et être plus cohérent. Mais de manière générale, il n'y aurait pas eu d'amélioration significative. Selon R.K. Stewart et H. Cutchins, The Selling of DSM. Sur ce point, cependant, le débat reste ouvert. Il semble que pour résoudre la question de la fiabilité du diagnostic psychiatrique, il suffirait de s'entendre sur la définition d'un désordre donné et de voir si elle est applicable à un cas donné. Dans ce sens, on tend à utiliser des définitions explicites. Par exemple, si nous définissons un type de maladie mentale de façon que celle-ci ait les propriétés X, Y et Z, un trouble est constitué par la présence de ces propriétés. Chaque fois que ces trois propriétés s'observeront chez un individu, le même diagnostic psychiatrique sera établi. En principe, toutefois, la définition de la maladie mentale ne se prête pas aussi facilement à une formulation explicite. Il y a toujours une grande place pour la discrétion, l'arbitraire ou les impressions personnelles des évaluateurs. D'où les inconstances entre psychiatres, d'où aussi le besoin d'améliorer la fiabilité du diagnostic psychiatrique. Il ne faut cependant pas donner une valeur indue à la notion de fiabilité ou de cohérence des diagnostics. Un diagnostic fiable ne résout pas de lui-même la question de sa validité. Il signifie seulement que le désordre auquel il renvoie tend à être classé de la même façon, et non qu'il soit nécessairement valide. Supposons qu'une maladie mentale soit définie selon les caractéristiques suivantes. Mauvaise humeur le matin, tendance fréquente à blasphémer, joue au baseball le dimanche avec ses amis au détriment d'activités familiales, préfère la bière au lait en fin de soirée, rit lorsqu'on lui raconte des histoires grivoises. Nous pourrions nous entendre sur le diagnostic chaque fois qu'une personne aura tendance à présenter ses caractéristiques. Le diagnostic pourrait ainsi être jugé fiable, mais il ne serait pas pour autant jugé valide, ou du moins il prêterait à controverse. Comparons cela à la chasse aux sorcières. Les inquisiteurs pouvaient être d'accord entre eux sur les critères identifiant une sorcière, par exemple parler aux animaux, avoir mauvaise haleine et éviter les églises et les prêtres, danser seul et marcher les soirs de lune. Mais identifier par convention les sorcières ne prouve pas la validité de l'identification. En somme, un diagnostic psychiatrique fiable, celui qui se prête à un consensus entre psychiatres, ne prouve pas qu'il est sensé. L'expérience suivante témoigne encore de la valeur douteuse de la fiabilité du diagnostic psychiatrique. On a demandé à 8 personnes de se présenter dans 12 hôpitaux psychiatriques en prétendant seulement entendre une voix floue qui semble leur dire « vide, creux et étouffant ». Ça, c'est l'expérience de D.L. Rosenhan, être sain dans un environnement malade. Elles furent toutes, 8 personnes, ces 8 personnes furent toutes admises à l'hôpital pour un séjour variant de 7 à 52 jours. 7 avec un diagnostic de schizophrénie et une avec un diagnostic de psychose maniaco-dépressive. Il semble donc y avoir là une certaine fiabilité. Outre ces apparentes hallucinations auditives, ces personnes se comportaient normalement, hormis que certaines, au début, manifestaient une certaine nervosité et anxiété en ce qu'elles craignaient que la supercherie soit découverte et de se retrouver ainsi dans une situation embarrassante. Qu'on dresse un diagnostic de schizophrénie à la suite de ces simples, entre guillemets, symptômes, ne manquera pas d'étonner. Quant à l'utilisation concordante de diagnostics, elle signifie sans doute simplement que les psychiatres, ou professionnels de la santé mentale, ont reçu une formation similaire et qu'ils ont été persuadés par les mêmes autorités. Le fait que les psychiatres sachent quelle définition ou instruction suivre lorsqu'ils emploient le terme schizophrénie ou une autre étiquette diagnostique en dit moins sur la maladie elle-même que sur les psychiatres. M. Boyle, schizophrénie. La validité renvoie ici à la signification du diagnostic psychiatrique. La drapétomanie, l'esclave qui fuyait son maître à l'époque de l'esclavage, la masturbation, l'homosexualité et autres exemples de ce genre se prêtent à des descriptions assez fiables. Mais il ne s'ensuit pas pour autant que ces comportements témoignent d'une maladie. D'où le problème de la signification du diagnostic qui va au-delà des descriptions fiables. Définir ces comportements, ces désordres psychiatriques, en termes psychiatriques, renvoie à la signification même de la maladie mentale. Pourquoi ceci ou cela devrait être une maladie mentale? Du coup, cela entraîne des questions sur la nature humaine qui sont non testables et non techniques, voire arbitraires. Nous entrons alors dans la sphère de la morale, de la culture et de la philosophie. Les controverses y sont plus sujettes à surgir et à persister. C'est pourquoi on a surtout tenté de résoudre le problème du diagnostic psychiatrique en insistant sur l'amélioration de sa fiabilité. Des classifications psychiatriques fiables permettent de lui donner une apparence de scientificité tout en masquant le problème de sa signification fondamentale. 12. A.K. Stuart H. Cutchings, The Selling of DSM. Cela nous fait oublier, diront A.K. Stuart et H. Cutchings, que les catégories psychiatriques classifieraient moins des maladies que des codes de conduite d'une société. La validité renvoie aussi à l'utilité des diagnostics psychiatriques. Ceux-ci n'ont pas à être jugés vrais ou faux en eux-mêmes. Ils n'ont pas à être le reflet d'une réalité intrinsèque des choses. Ils ne représentent qu'une façon de classifier des comportements humains. Les diagnostics psychiatriques doivent être jugés moins en fonction de leur vérité qu'en fonction de leur utilité. Selon J.E. Maddox, Stopping the Madness. Pour qu'un diagnostic psychiatrique soit utile, il devrait nous renseigner sur un individu au-delà de l'étiquette qui lui est assignée, mais son utilité à cet égard reste limitée. Par exemple, un diagnostic de schizophrénie ne nous permet pas de savoir si la personne en question a été capable de préméditer un crime, d'entretenir de la malice, d'obéir à la loi, d'avoir agi librement ou volontairement à un moment donné, ou encore s'il serait capable de maîtriser ses comportements violents. Ce diagnostic ne nous permet pas vraiment de prédire le cours ultérieur de la vie d'une schizophrénie en raison de son hétérogénéité et de ce que son évolution est façonnée par toutes sortes de conditions psychosociales. Bon, je ne lis pas toutes les notes, hein, parce qu'elles sont nombreuses. Cela ne nous permet pas d'identifier les causes. Finalement, la relation entre diagnostic et traitement paraît faible. Je vais quand même lire ce titre-là. T.S. Sarbin, On the Futility of Psychiatric Diagnostic Manuals, DSM, and the Return of Personal Agency. On ne sait pas toujours quel diagnostic attribuer à une personne, alors on essaie différentes drogues jusqu'à ce que l'une d'elles ait l'effet désiré. C'est donc la drogue qui aiderait à formuler un diagnostic. Si bien qu'il n'est pas toujours nécessaire de trouver un diagnostic précis, pour autant que les drogues prescrites aient l'effet désiré. Les drogues à prescrire à un patient donné ne dépendent pas d'un diagnostic détaillé. Selon R. Cooper, Classifying Madness. De fait, les drogues peuvent répondre à des symptômes particuliers et non à des diagnostics particuliers. Bental, Madness explained. Le jargon du diagnostic psychiatrique ne paraît rien ajouter au vocabulaire commun, sinon de reformuler en termes techniques les jugements de la vie de tous les jours. Pédophilie pour attirance sexuelle envers des mineurs, exhibitionnisme pour déshabillage indécent exécuté en public, schizophrénie pour bizarrerie. Les notions si simples d'irrationalité, d'immoralité, de désespoir, d'impuissance, de démoralisation et de perte de contrôle suffiraient à rendre compte des malheurs ou des excentricités de certains individus. On n'obtient pas plus de lumière en appliquant un diagnostic psychiatrique rigide à nos problèmes. Au contraire, avec ces présumées entités cachées, dysfonctionnement ou anomalie, il nuirait davantage à la compréhension. Mirovski et C.E. Ross, Psychiatric Diagnosis and Reified Measurement. Les désordres psychiatriques ne se réduisent pas à un diagnostic et à une série de symptômes d'un présumé dysfonctionnement, formulé en termes psychologiques ou biologiques, inhérents à un individu. Ils sont plus compréhensibles, replacés dans leur contexte socio-personnel, comme c'est le cas des problèmes humains en général. Dit S. Jacobs et D. Cohen, Hidden in Plain Sight, et Does Psychological Dysfunction Mean Anything? Dit H. Jacobs, Is a correct psychiatric diagnosis possible? Dit S. Sarbin dans ses différents ouvrages, M. Susco, Caseness and Narrative, et Thomas Sass dans ses différents ouvrages. Alors, les désordres psychiatriques ne se réduisent pas à un diagnostic et à une série de symptômes d'un présumé dysfonctionnement formulé en termes psychologiques ou biologiques inhérents à un individu. Ils sont plus compréhensibles, replacés dans leur contexte socio-professionnel, comme c'est le cas des problèmes humains en général. Au lieu de cela, les expériences du patients doivent concorder de force avec les catégories psychiatriques prédéfinies, le plus souvent celles du DSM, dans le cadre desquelles elles sont comprises. Or, les expériences malheureuses ou bizarres des individus s'ajustent mal à des classifications préfabriquées. Le vocabulaire commun suffirait à décrire la situation ou à guider les interventions. Les individus mentalement malades pourraient être étudiés, compris ou aidés en fonction de leur comportement, de leurs expériences et de leurs problèmes spécifiques. Délire, hallucinations, humeurs instables, tristesse, agressivité, repli sur soi, désespoir, bizarrerie dérangeante, sans qu'on ait à les insérer dans un système de diagnostic psychiatrique. Donc, note 23. Donc là, il y a toute une liste encore de chercheurs qui sont arrivés à cette conclusion. Ils manifesteraient des comportements qui, même s'ils heurtent l'image que nous nous faisons d'une personne raisonnable, n'exigeraient pas d'explication plus spéciale, plus médicale, que n'importe quel autre. Les désordres mentaux sont flous et hétérogènes et ne sont pas explicables par des anomalies biologiques. Deux individus peuvent être diagnostiqués schizophrènes tout en manifestant des symptômes différents, sauf de paraître tous deux bizarres. Il en va de même des dépressifs, des psychopathes, etc. Deux individus peuvent être diagnostiqués dépressifs tout en présentant des symptômes différents, sauf l'apparence démoralisée. Deux individus peuvent être diagnostiqués psychopathes tout en présentant des symptômes différents, sauf l'apparence particulièrement immorale. Même si un diagnostic psychiatrique renvoyait à des comportements sujets à se présenter ensemble avec une certaine constance, cela ne lui enlève pas nécessairement pour autant son caractère arbitraire. En effet, il est toujours possible d'observer des comportements de la vie quotidienne ayant une certaine constance, mais il est arbitraire d'en faire un diagnostic psychiatrique. Pourtant, c'est justement ce que font les classifications psychiatriques, sauf que les comportements auxquels elles se réfèrent sont dévalorisés. Tristesse, délire, perte d'intérêt, repli sur soi, bizarrerie, et ainsi de suite. En fait, les comportements humains sont généralement classifiés en catégories. Nous pourrions tout aussi bien classifier les comportements marginaux à travers des catégories psychiatriques. Cependant, les diagnostics psychiatriques impliquent l'idée qu'il existe des comportements normaux et des comportements anormaux qui sont explicables par des processus différents, les uns par des causes non pathologiques, les autres par des causes pathologiques. Mais cette distinction est plus présumée que prouvée, plus morale que médicale, plus obscure que claire. Quoi qu'il en soit de la validité des diagnostics psychiatriques, ceci permettrait au moins d'humaniser nos rapports avec les malades mentaux en leur accordant par là un statut de malade authentique, pourrait-on penser. Selon une opinion populaire, le fait qu'une maladie mentale soit considérée comme une maladie organique améliorerait nos attitudes et nos interventions vis-à-vis du malade mental. D'où des programmes à cette fin, subventionnés notamment par des compagnies pharmaceutiques visant à persuader la population que les difficultés psychosociales, les désordres psychiatriques, vécus par certains, sont explicables par des anomalies biologiques, donc relevant de la médecine. Il serait ainsi plus humain de voir le malade mental comme un malade physique. Mais il y a une opinion contraire qui est la suivante: la médicalisation de ces difficultés psychosociales, en faire des maladies, créerait à l'endroit des patients psychiatriques davantage de stigmatisation, de condescendance, de défaitisme, de rejet et d'intervention dure et inadéquate. Est-ce Meta et A. Farina, is being sick really better? G. Reed and N. Haslam, Public Opinion. La médicalisation des difficultés psychosociales créerait à l'endroit des patients psychiatriques davantage de stigmatisation, de condescendance, de défaitisme, de rejet et d'intervention dure et inadéquate. Et ce, sans compter l'usage que nous faisons de ces diagnostics pour contrôler, rabaisser ou déresponsabiliser des gens sous les apparences d'une objectivité médicale. Du reste, les professionnels de la santé mentale tendraient, selon Reed et Haslam, à avoir des attitudes plus négative que la population en général vis-à-vis de ceux qui souffrent de troubles psychiatriques ou qui reçoivent un tel diagnostic. Ainsi, la fonction sociale du diagnostic psychiatrique serait aussi critiquable que sa fonction scientifique. Voilà, c'est cet extrait donc, du livre « L'imposture de la maladie mentale » de Alain Bachand, philosophe et travaillant comme fonctionnaire au Palais de justice de Montréal, en tout cas en 2012, à l'époque où ce livre a été publié. Eh bien, ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui, et on vous dit au revoir.
Yeah. Pourquoi ça rime, rime. Yeah. Je ne sais pas comment commencer, comment pourrais-je identifier ce sentiment d'immensité. Puis-je vraiment me sentir fier, je suis plutôt sincère, non. Et j'ai fait le serment que je serai un servant, observant les vivants. Si t'as un don, certain, si t'as un fond, fervent, c'est certain. Tu vas couper toutes ces langues de serpent et clairement personne ne pourra faire de toi insultant, insultant les gens qui pensent que t'es qu'un simple consultant. Et t'entends ma vie qui te tente, posé dans les tentants. Rêve depuis longtemps, ouais je sais que c'est tentant. Mais pour moi tout a un sens, sans prétention coalescence que j'ai depuis l'adolescence, sans, sans le sang. On voit que ça depuis tout petit, toujours blessé comme on titi. Et on est là, on se multiplie, on reste dans notre mesquinerie. Rime, rime, rime. À quoi ça rime, rime? À quoi ça rime, trim? Pour rester digne, dis-moi le sims, mime. Ce qu'on te dit de faire fait mine, d'avoir bonne mine. Sinon je te bim, bim la tête. Sinon je te bim, bim la tête. À quoi ça rime, trim, pour rester digne? Dis-moi le sims, mime, ce qu'on te dit de faire fait mine, d'avoir bonne mine. Sinon je te bim, bim la tête. Sinon je te bim, bim la tête.
À quoi ça rime? À quoi ça rime? À quoi rime nos textes? À quoi rime la vie? Un putain de bordel avec un nom, la merde. Comme perdre ses textes à 5 jours de posé. La haine, odieux, la rage dans la peau. Nique la mémoire des anciens. J'ai tout, c'est faux, regarde dans le creux de ma main. Taf de merde, pas de pote, pas de soutien. Tu veux savoir ce que vaut ma vie? Rien, à quoi ça rime? Que dalle, mais faut que je fasse mon couplet. Que je fasse l'effet d'une balle qui dans tes poumons vient se loger. Je t'empêche de penser, respirer comme la France est maurienne. À quoi rime tous ces fachos qui comme de rien se promènent? À quoi ça rime, putain? Être entouré d'abrutis, entouré d'accros du faux, des gens juste débiles, sacrifier de son temps pour être dans le mood de la société. Perdre son temps à bosser, perdre son temps à aller voter. Putain, à quoi ça rime, Julio? À quoi ça rime, ces rimes qui nous déciment le cerveau? Tout ce que je sais faire est qualifié d'artistique. Donc j'ai aucun avenir aujourd'hui, je l'ai compris. Loin des streamers influenceurs qui blindent leur portefeuille vitrine, qui vendent des VPN à toute heure. Victime de la France d'un quotidien en mode repeat, je comprends rien, mec. À quoi ça rime, à quoi ça rime?
Pour la librairie Publico, Publico en fête d'été, grande braderie de livres et de disques de 1 à 5 euros à la librairie Publico, samedi 24 et dimanche 25 juin de 11h à 19h. Et pas que.